Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. La rediffusion le mardi matin à 10h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez la possibilité, bien sûr, sur Internet de nous écouter en direct pendant la diffusion de cette émission, mais aussi en différé grâce au podcast que vous pouvez récupérer de toutes les émissions de Graphite, bien sûr, sur le site internet graphite.net. Nous sommes aujourd'hui 14 mars. 14-03, mais dans les pays anglo-saxons, on inverse le mois et le jour. Donc, dans les pays anglo-saxons, c'est le 3-14. 3-14, ça nous dit quelque chose. Eh bien oui, c'est le chiffre pi, et donc on a décidé que le 14 mars serait la journée de pi depuis 1988, parce que c'est bien sûr 3,14, l'approximation à deux décimales du nombre pi, et puis du coup on s'est dit, oh ben tiens, en 2020, on va considérer que le 14 mars sera la journée internationale des mathématiques. Donc, bonne fête aux mathématiques aujourd'hui, hein, 14 mars. Alors, il est vrai qu'on ne parle pas souvent de mathématiques dans cette émission. Il faut dire que les mathématiques, bon, déjà, on n'a pas toujours une image, bien positive. Et parce qu'on est sur un niveau d'abstraction tellement élevé au niveau des mathématiques que soit on adhère, soit on n'adhère pas, soit on a les clés de compréhension, soit on a l'envie aussi de faire un effort d'abstraction pour essayer de mieux comprendre ce que sont les mathématiques, mais les mathématiques sont partout. Et ça me permet d'évoquer, alors je le dis de mémoire, je crois que c'est la maison Henri Poincaré. C'est un musée à Paris qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, qui est un musée des mathématiques. Et j'ai eu la chance de le visiter un peu en avant-première, où ils avaient montré un petit peu comment ils souhaitaient aborder les mathématiques. Et ils ont eu la très bonne idée, hein, les concepteurs de ce musée. Il y a même derrière l'un des accompagnateurs de ce musée, qui est le mathématicien André Villani, il y a justement l'idée d'essayer d'apporter une illustration de ces mathématiques pour qu'il y ait un rattachement à notre quotidien, ce qui permet justement de mieux appréhender ce sujet et de faire cet effort soit d'abstraction, soit, bah, ce sont entre guillemets les mathématiques qui font l'effort de pouvoir venir à nous sous des supports, des aspects, des activités, des manipulations, des jeux, des vidéos ou autres qui sont présentés dans ce musée. Donc si vous avez l'occasion d'être sur Paris, je vous incite à visiter ce musée des mathématiques qui est de mémoire la maison Henri Poincaré. J'espère que je ne dis pas de bêtises parce que je n'ai pas du tout préparé cela, c'est un peu de l'improvisation que je vous fais, mais à l'occasion voilà, de cette Journée internationale des mathématiques, eh bien, c'est l'occasion justement de pouvoir parler de ce musée et des autres musées en sciences, hein, qui abordent les mathématiques. Hein, les musées scientifiques abordent dans certains cas, je pense à la Cité des sciences où il y a aussi un département mathématiques. La facilité d'illustration, ça va être les probabilités, mais il y a beaucoup d'autres choses au niveau des mathématiques. Et à l'occasion des journée internationale des mathématiques aujourd'hui, ça me permettait d'évoquer ce musée que j'irai peut-être revoir prochainement parce que j'avais trouvé qu'il était vraiment très très bien fait. Et c'est vous pouvez emmener vos enfants, c'est vraiment adapté, c'est au cœur de Paris. Le 14 mars 1986, alors il y avait une sonde spatiale européenne qui s'appelle Giotto. Elle passe à un peu plus de 500 km de la comète de Halley. C'est en 1986, comme ça on pouvait en savoir plus un petit peu sur cette comète. Et en 1986, le 14 mars, c'est également la mise en service de la centrale nucléaire Superphénix à Crémalville dans les Alpes. 86, donc ça fait 40 ans que cette centrale a été mise en service. Elle a été arrêtée à la fin des années 90 et depuis il a fallu déconstruire cette centrale à Crémalville. Ça se visite, hein, également, vous pouvez vous renseigner pour vous rendre à Crémalville et découvrir justement cette centrale nucléaire Superphénix. 1995, Norman Taggart est le premier américain à participer à un vol orbital russe. 1995, fin de la guerre froide, et donc du coup, les Américains, les Russes décollent ensemble du Kazakhstan. Il est accompagné, Tagar, par deux cosmonautes russes, Vladimir Dejourov et Gennady Strekalov. Et enfin, le 14 mars 2000, Bill Clinton, Tony Blair lancent un appel commun aux scientifiques du monde entier pour un accès libre au génome humain. Le président américain, le premier ministre britannique de l'époque, hein, ça fait donc 26 ans, ça ne nous rajeunit pas tout ça. En tout cas, voilà, il lance un appel commun pour cet accès libre au génome humain le 14 mars 2000. Naissance le 14 mars 1879 d'Albert Einstein. Il est né, il est d'origine allemande parce qu'il est né à Ulm, c'était dans l'Empire allemand à l'époque. Il a été suisse et ensuite américain. Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905. Il publie sa théorie de la gravitation, la théorie de la relativité générale en 1915. Il a aussi largement contribué au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie. Il a reçu en 1921 le prix Nobel de physique pour son explication de l'effet photoélectrique. Et en fait, il est aussi notamment connu du grand public comme l'auteur de l'équation E égale mc2 qui établit une équivalence entre la masse et l'énergie d'un système. En fait, la renommée d'Einstein, qui est considérée comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, cette renommée dépasse largement le milieu scientifique parce que son nom, sa personne, son visage sont dans la culture populaire et sont directement associés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie. Et alors, il y a plein de choses, il y a plein de bouquins qui ont été écrits sur Einstein. Et donc, à l'occasion de cet éphéméride, j'ai regardé un petit peu ce que je trouvais intéressant. Je sais pas, sa fin est quand même bizarre parce que juste avant de mourir, Einstein va prononcer quelques mots en langue allemande. Et en fait, l'infirmière de garde de l'hôpital de Princeton, elle ne parle pas allemand. Donc elle connaît pas, elle a pas pu retranscrire, elle a pas pu répéter les mots en allemand qu'Einstein a dit avant de mourir. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir en allemand, en plus dans sa langue natale. Et on ne saura pas, et on ne le saura jamais, parce que cette infirmière n'avait pas du tout compris ce qu'il a dit. Je trouve, je ne sais pas, c'est assez bizarre, parce qu'on ne saura jamais quels ont été les derniers mots d'Einstein, qui est décédé en 1955. 14 mars 1932, décès de George Eastman. Alors son nom, il n'est pas nécessairement posté à la postérité de cet industriel américain, mais il est fondateur d'une société qui, elle, est très connue, c'est la société Kodak. C'est un inventeur, c'est un philanthrope, il est connu pour avoir bien sûr révolutionné la photographie en fabriquant en série le premier appareil photographique portable. Et donc du coup, il a transformé un processus qui était lourd et compliqué en un processus facile à utiliser, accessible à tous. Il a un petit peu démocratisé la photographie. C'est ce fondateur, la société Kodak, qui est donc George Eastman, qui est donc décédé le 14 mars 1932. Voilà pour cette éphéméride.
Jean-Noël Moreau, Guillotine, sur Graphite.
Oh là, bah j'avais éteint mon micro, n'importe quoi, ça devient compliqué. Je fais tout en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le studio, on est seul, donc on est à la fois réalisateur, programmateur musical et accessoirement animateur. Je disais qu'en fait, très souvent dans cette émission, on a des articles un peu de profondeur. Et là, j'avais envie de commencer cette émission par une petite page de brève que l'on a dans des revues de vulgarisation. Alors là, essentiellement Science et Avenir, mais vous avez Science et Vie également. Ce sont deux revues très intéressantes que je vous invite à consulter, à acheter, à lire régulièrement, parce qu'il y a des sujets de fond, bien évidemment. Puis il y a des petites brèves très sympas et très illustrées qui abordent plein de sujets. Par exemple, il y a des petites décharges d'électricité statique qui ont été observées pour la première fois sur Mars, au cœur de tourbillons de poussière. Elles ont été détectées grâce au microphone du rover Perseverance qui a enregistré à la fois l'impulsion électrique et le son de l'étincelle. Et ces petites décharges pourraient jouer un rôle clé dans la chimie de l'atmosphère et la dynamique des tempêtes de poussière. Donc il y a des tourbillons de poussière à la surface de Mars qui déclenchent des étincelles. Vous avez des photographies qui sont présentées dans Science Avenir et c'est assez intéressant. On apprend également qu'à la Nouvelle-Orléans, les anolis bruns invasifs, c'est des genres de lézards, ils deviennent plus agressifs envers d'autres lézards indigènes à mesure que les températures augmentent. C'est ce que suggèrent des essais en enclos. En fait, tout ça suggère que le réchauffement climatique en cours pourrait faire basculer l'équilibre compétitif entre les deux espèces de lézards. Et donc la chaleur, ça rend les lézards invasifs plus agressifs, c'est ce qu'on constate. Alors, on n'a pas nécessairement d'explication, là on est sur du constat, on est sur une notion d'éthologie. L'éthologie, on en parle souvent dans cette émission, c'est la science du comportement animal. Donc on constate, on observe, on n'a pas nécessairement d'explication, mais là on voit bien que la chaleur, bah, ça les excite un petit peu. On a utilisé une trompe de moustique. On appelle ça le proboscis. Ça a été fixé à l'extrémité d'un réservoir à piston. En fait, ça a servi de buse d'impression. Ça a servi pour une imprimante 3D. Le mécanisme permet d'obtenir des filaments de matériaux extrêmement fins et tout ça à faible coût. C'est vraiment rigide. Hein. C'est aussi rigide que du plastique normal. Et la trompe de l'insecte produit aussi des impressions qui varient assez peu du modèle numérique. Et donc, ça permet d'avoir une précision assez intéressante. C'est au Canada que cela se fait, notamment à l'université McGill. Voilà, donc, des petites brèves que je trouve originales. Est-ce que j'en ai d'autres ? Oui, j'en ai d'autres. On a constaté en Australie, avec une étude qui a été menée à partir de données d'inventaire forestier, que le taux de mortalité des arbres a augmenté en moyenne de 3% par an. C'est assez troublant. C'est une accélération qui est vraisemblablement due à l'augmentation des températures. Donc la mortalité des arbres s'accélère en Australie. C'est ce que constate justement l'université de Sydney. C'est quand même assez troublant. Autre chose, on a une équipe internationale de scientifiques conduite par Sabrina Krive, qui est professeure au Musée national d'histoire naturelle de Paris. Et cette équipe a mis au point une intelligence artificielle capable d'identifier avec une précision inédite la faune sur les images captées par des pièges photographiques. Et donc, dans la densité des forêts tropicales africaines, ces pièges sont en effet en première ligne pour surveiller de façon discrète les animaux, au point qu'ils fournissent désormais une masse de données qui sont difficiles à traiter. Parce qu'il y a environ 1000 vidéos par semaine dans le parc national de Kibale en Ouganda, ce qui fait 50 heures de travail pour une personne, donc c'est quand même énorme. Et donc il y a un algorithme qui a été développé et entraîné qui s'appelle Deep Forest Vision, et il a été entraîné sur plus de 2 millions de photos et plus de 200 000 vidéos issues de ces pièges qui sont positionnés sur une soixantaine de sites un petit peu partout en Afrique. Et c'est capable, justement, cette intelligence artificielle, d'identifier avec précision les animaux pris en photo ou les vidéos dans des forêts africaines. Et du coup, voilà, ça permet de voir un traitement de données beaucoup plus efficace grâce à cette intelligence artificielle qui a été développée pour cela, et c'est quand même assez intéressant. Et puis, enfin, dernier sujet, que c'est une étude du CNRS en France, on a associé un nez artificiel qui détecte les molécules odorantes, et on l'a associé à un stimulateur électrique à l'intérieur du nez. Et donc, il y a des chercheurs français qui ont permis à des patients qui avaient perdu l'odorat de détecter et de parfois différencier des odeurs. Le stimulateur active un système sensoriel distinct de l'odorat, dédié aux sensations de chaud, de froid, de picotement ou d'irritation. Et donc, chaque odeur captée par le nez artificiel déclenche ainsi un motif spécifique qui produit une sensation perceptible. Et ça permet justement d'avoir comme un genre de prothèse olfactive qui permet de lutter contre l'anosmie, qui est donc la perte de l'odorat. C'est en France donc que cela s'est fait. Je trouve assez intéressant d'aborder cela. Enfin, dernier sujet, on s'est rendu compte dans le parc national de Toro Toro, alors c'est en Bolivie, le site de Carreras Pampa conserve l'un des ensembles d'empreintes de dinosaures les plus denses jamais documentées. Il y a plus de 16 000 traces qui ont été recensées sur ce site, et elles ont été laissées par des dinosaures théropodes à trois doigts il y a environ 70 millions d'années. Et ces empreintes, réparties sur 9 secteurs, couvrent une large gamme de tailles, de moins de 10 cm à plus de 30 cm. Et ces empreintes témoignent de comportements variés comme la marche, la course, des virages serrés ou des frottements de queue. Mais le site se distingue surtout par l'abondance exceptionnelle de traces qui indiquent des phases de nage. Les dinosaures s'essayaient à la nage. On n'avait pas pensé à ça encore. Eh bien, c'est ce qu'on a pu découvrir. C'est un comportement rarement décrypté chez les dinosaures. Plus de 1300 empreintes ont été formées sous l'eau. Certaines montrent un espacement régulier, ce qui révèle des animaux prenant appui sur le fond avec leurs orteils en nageant, tandis que d'autres suggèrent un contact plus ponctuel avec justement ce substrat de fond et a donc l'idée que peut-être ils s'essayaient à la nage. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà quelques petites brèves que l'on peut lire dans le Science et Avenir de février-mars. Je trouve que c'est assez intéressant, bien évidemment, de savoir. On n'a pas nécessairement cette image de voir des dinosaures qui essayent de nager. Eh bien si, ils essayaient. Mais ils ont raison, après tout. Pourquoi s'en priver ? Allez, on écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite et ensemble, on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Besman Loft, c'était Botox sur l'antenne de Graphite. Ça m'a pris dépourvu tout ça. Faudra me prévenir. Hein.
Jean-Noël Moreau, Biotine,
sur Graphite.
J'étais en train de feuilleter un petit peu les articles que l'on va évoquer et je trouvais intéressant de parler, comme on parlait de l'intelligence artificielle. Non, je voulais d'abord parler des dinosaures, c'est ça. C'est ça. Alors, j'ai tellement retrouvé d'articles. C'est un peu brouillon hein, dans mon bureau, là, dans le studio de Graphite en ce moment. Je voulais parler des T-Rex, c'est ça. Parce que, comme on a parlé de ces dinosaures qui s'essayaient à la nage, j'avais envie de parler des T-Rex parce que je me souvenais de cet article que j'avais identifié dans Futura Science qui parlait de la démarche du T-Rex. Et quand on pense à la démarche du T-Rex, on imagine plutôt quelque chose de lourd et de pesant, avec plusieurs tonnes à déplacer. C'est pas facile d'être dans une posture un peu élégante. Pourtant, il y a une nouvelle étude qui vient de casser cette image en révélant que ce dinosaure T-Rex marchait en réalité sur la pointe des pieds, avec une démarche bien plus proche de celle de nos oiseaux actuels que celle d'un reptile plutôt massif. Des chercheurs ont en effet étudié la façon dont les tyrannosaures posaient le pied sur le sol, en réalisant des modèles biomécaniques sur la base de données paléontologiques. L'étude ne s'est pas d'ailleurs limitée à l'analyse des ossements fossilisés de T-Rex, mais a également pris en compte les empreintes fossiles attribuées à ces grands théropodes. Et celles-ci ont notamment permis de mieux observer quelle partie du pied subissait le plus de pression. Et les résultats révèlent qu'il s'agit des doigts de pied. Les modèles biomécaniques construits sur l'analyse des ossements ont en effet révélé que ce déplacement sur la pointe des pieds était certainement le plus efficace pour produire des mouvements rapides dans le cas de ces dinosaures massifs. Un T-Rex se déplaçant de la sorte aurait ainsi possédé une vitesse supérieure de 20% à celle d'un T-Rex qui posait son pied à plat sur le sol. Ce type d'appui est dit digitigrade, ça correspond à la locomotion des oiseaux modernes qui, rappelons-le, font partie du clade des dinosaures et sont donc les uniques descendants des dinosaures. Les estimations suggèrent ainsi que ce grand prédateur aurait pu atteindre des vitesses comprises à entre 5 et 11 mètres secondes, ce qui est quand même assez rapide, tout en conservant une bonne stabilité malgré ces quelques 10 tonnes, donc c'est quand même assez fascinant. Ces résultats qui ont été publiés dans la revue Royal Society Open Science impactent également la posture générale du T-Rex. Pour garder son équilibre et aborder les chocs, eh bien le dinosaure aurait vraisemblablement adopté une posture légèrement accroupie avec ses pas rapides. Alors si ces résultats se confirment, il pourrait modifier en profondeur la manière dont les musées, les documentaires, les films représentent la locomotion du T-Rex. Donc voilà, il aurait une démarche beaucoup plus élégante peut-être, en tout cas moins massive, moins lourde, parce qu'il se mettait sur la pointe des pieds. Voilà, c'est ce que l'on a constaté et c'est cet article que je cherchais parce que je trouvais qu'il y avait un lien assez intéressant. Alors, l'intelligence artificielle, autre article de Futura Science qui est assez troublant, mais qui pose question bien évidemment de plus en plus au niveau de l'intelligence artificielle. L'article démarre comme ça, Paris, printemps 2028, sur le fil d'actualité d'un réseau social, une vidéo d'un militant politique fait scandale. Ce dernier accuse un candidat majeur à une importante élection d'avoir détourné des fonds publics. Le clip, il est convaincant, les commentaires abondants. On applaudit la révélation, les influenceurs politiques relaient cette affaire et en quelques heures, la rumeur se propage dans plusieurs langues, influençant conversations politiques et débats. La presse s'empare du sujet car il est devenu incontournable, le doute est instillé, la corruption devient le sujet numéro un du moment. Le problème, ce militant n'existe pas. L'affaire de détournement non plus. Le sujet de la corruption prend de l'ampleur alors qu'il n'y en a plutôt moins qu'auparavant. En réalité, cette vidéo et les messages en commentaire sont générés par un groupe d'intelligence artificielle coordonné, un essaim d'agents intelligents qui fabriquent l'illusion d'un large consensus. Personne ne se rend compte que ces centaines de comptes ne sont que des voix artificielles programmées pour convaincre, diviser et modeler l'opinion. Mais une fois la supercherie démontrée, le mal est fait. Le bruit de fond a été tel qu'il est désormais impossible de rétablir la vérité. Le faux sujet en devient un et tous les politiques ont dû s'exprimer sur un sujet qui ne devrait pas en être un. Et donc ces essaims d'intelligence artificielle pilotés pour générer des consensus afin d'influencer l'avis des électeurs et de faire pencher des élections d'un côté ou d'un autre, c'est une nouvelle menace que des scientifiques jugent imminente. Ces chercheurs qui ont publié un article dans la revue Science expliquent comment la fusion de grands modèles de langage avec des systèmes multi-agents pourrait permettre la création de ces essaims d'intelligence artificielle malveillants. Des agents donc d'intelligence artificielle capables d'imiter de véritables dynamiques sociales pour réorienter le débat démocratique. Leur mission serait clairement de créer l'amorce d'un fort consensus sur un sujet polarisant. Et donc, pour pousser cette impression de consentement, ces IA pourraient tirer facilement profit des algorithmes des réseaux sociaux et notamment de X. La raison, eh bien, les algorithmes privilégient l'engagement à la fiabilité. Donc, de fait, alors que selon le MIT, qui est l'Institut de technologie du Massachusetts, les fausses informations seraient postées sur X 70% de fois plus que les faits, eh bien, la désinformation et la manipulation sont permanents et on ne distingue plus le vrai du faux. Sur les réseaux sociaux dominants, cela fait longtemps que les campagnes de désinformation utilisent des robots, des bots, comme on dit, ces comptes automatisés qui republient le même message ou des variantes. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle génération de systèmes, bien la manipulation promet d'être bien plus dangereuse et surtout bien plus subtile. En effet, le danger viendra de ces essaims d'agents d'intelligence artificielle qui sauront coopérer entre eux. Ils sauront adopter des identités individuelles et surtout interagir avec de vrais utilisateurs. Ce qui change fondamentalement, c'est la capacité de ces agents à apprendre, à s'adapter en temps réel aux discussions, à simuler une diversité de points de vue, tout en poursuivant un objectif unifié, à savoir fabriquer un consensus synthétique. Et donc, dans ces conditions, il devient d'autant plus difficile de distinguer ce qui est vrai de ce qui est simplement très convaincant. Donc les chercheurs n'ont pas précisément déniché de type de meute d'intelligence artificielle en activité sur les réseaux sociaux. En revanche, il y a des expérimentations qui ont déjà été réalisées en ce sens. Ainsi, il y a des IA qui manipulent ou influencent des conversations en ligne qui ont été testées. Alors, pour le moment, il ne s'agit donc essentiellement que de sujets de recherche isolés ou de versions primitives de ces essaims d'intelligence artificielle. Ils ne constituent pas encore des campagnes massives, autonomes, totalement auto-organisées comme celles qui sont envisagées par les auteurs de cette étude. Il n'empêche que si tout cela ne reste qu'anticipation, il y a malheureusement des précédents qui montrent que les responsables d'ingérence dans les démocraties sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Et donc ces agents d'intelligence artificielle seraient un sacré coup de pouce pour cela, bien évidemment. Les réseaux sociaux sont depuis longtemps utilisés pour influencer les personnes indécises en raison de leur capacité à générer des bulles informationnelles sur mesure. L'un des premiers cas relevé fut celui du scandale de Cambridge Analytica via Facebook. Le réseau social avait facilité des campagnes de désinformation menées par une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie, en laissant circuler des fausses informations qui ont influencé des scrutins, comme par exemple le Brexit, une affaire qui a engendré des contrôles et une meilleure modération. Mais depuis quelques années, notamment l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir et le rachat de Twitter par Elon Musk, eh bien, la modération et le fact-checking se sont atténués sous prétexte de libérer l'expression personnelle. Alors, il n'y a donc qu'un pas pour que ces armées d'agents d'intelligence artificielle s'implantent pour devenir des armes de perturbation massive des processus démocratiques. Alors, ce qui est navrant, c'est que ces intelligences artificielles pourraient façonner l'avenir des démocraties sans que la majorité des électeurs ne sachent qu'ils ont été influencés artificiellement. C'est ça qui est assez troublant. Mais comment se préparer à lutter contre ce phénomène qui semble inéluctable ? Eh bien, les chercheurs imaginent déjà différentes réponses avec l'intégration d'outils de détection qui identifient non seulement le contenu mais également les comportements coordonnés de ces agents un peu artificiels. Autre solution, eh bien, ce serait le renforcement de la vérification de l'identité sur ces plateformes. Mais il y a ce que l'on pourrait faire et il y a aussi la réalité. Face à des réseaux sociaux retors à respecter une réglementation, de fait, ces technologies ont toutes les chances de prospérer dans les angles morts ou dans des questions justement d'angle mort du droit. Et ça pourrait laisser des portes ouvertes dans ce contexte. La question n'est plus de savoir si ces manipulations fonctionneront, mais si un retour vers un consensus réel et non manipulé pourrait exister dans l'avenir. C'est assez troublant, cet article de Futura Science, sur cette nouvelle menace que les scientifiques jugent imminente, à savoir comment l'intelligence artificielle pourrait bientôt fabriquer l'opinion publique. Eh bien, écoutez, on verra ça avec les prochaines élections présidentielles qui nous attendent en France. Ça va être un terrain de jeu qui va être propice vraisemblablement à ce genre de choses. Il va falloir être vigilant, on essaiera d'être vigilant et de décrypter ça sous l'angle scientifique, bien évidemment, si cela a lieu. Allez, on écoute un petit titre pour nous remettre de ces émotions. À tout de suite sur l'antenne de Graphite. Incurably Innocent, c'était At The Drive-In sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et comme on était en train de parler des IA, j'ai encore trouvé cet article dans Science et Avenir qui nous parle encore de l'intelligence artificielle qui se prennent pour des chercheurs. Hein. Pour certains, les intelligences artificielles sont appelées à dépasser le simple rôle d'outil pour devenir les égaux des chercheurs. C'est la prédiction de James Zood, professeur de sciences des données biomédicales à l'université de Stanford aux États-Unis. En juillet dernier, il publiait dans la revue Nature une étude imaginée et réalisée presque exclusivement par des agents d'intelligence artificielle. Et pour enfoncer le clou, il a créé un congrès scientifique très particulier. Pour seul prérequis, les travaux présentés devaient être réalisés en partie par des agents IA pour ensuite être évalués par d'autres agents IA. Les revues n'acceptent toujours pas d'inclure une IA en tant qu'auteur d'une étude scientifique. Nous voulons que ça change, c'est ce que justifie le chercheur. Et donc, le congrès Agent for Science a eu lieu en ligne le 22 octobre dernier. Les 315 études soumises ont d'abord été évaluées par des modèles de langage qui en ont validé 80. Après une deuxième validation menée par des chercheurs en chair et en os, 48 ont été acceptés en informatique et en médecine. Nous voulons utiliser ce congrès expérimental pour apprendre des choses sur les qualités et les défauts des agents d'intelligence artificielle en tant que chercheurs et évaluateurs. C'est ce qu'explique James Zhu. Alors, l'événement a certes mis en lumière les compétences des intelligences artificielles, mais aussi leurs limites. Beaucoup d'hallucinations, des références inventées et une difficulté évidente à générer de nouvelles idées scientifiques et expérimentales. Je ne suis pas du tout convaincu que les agents IA actuels aient la capacité de concevoir des questions scientifiques robustes qui fassent vraiment avancer le domaine. C'est ce qu'estime Risa Wechsler, professeure d'astrophysique à l'université Stanford. Elle a participé aux évaluations. Alors, chacune des études mentionne à quel point l'intelligence artificielle a contribué à chaque étape. C'est-à-dire la conception des hypothèses, du protocole expérimental, l'analyse des données, l'écriture, ainsi de suite. Et donc, sans surprise, la technologie a pris une part très importante dans l'écriture de tous les articles, moins dans les premières étapes de réflexion. Toutefois, il y a quelques travaux qui ont un réel intérêt scientifique. L'un des meilleurs étudie à quel point l'application des IA dans la recherche peut aider à tricher. Cette étude montre ainsi que les agents IA peuvent intégrer des consignes cachées, amenant des évaluateurs IA à ne faire que des commentaires positifs. Elle souligne aussi des problèmes de fabrication de données vraisemblables mais fausse, et l'incapacité des évaluateurs intelligence artificielle à les détecter, ou alors le biais un peu flagorneur qui pousse les IA à valider des études dont elles ont pourtant pointé les failles. C'est quand même assez intéressant. Nous ne pouvons toujours pas dire qu'un agent IA puisse être l'auteur d'un article scientifique. C'est ce que martèle Barbara Sheffet, rédactrice en chef de Nature Biotechnology. C'était une table ronde en clôture du congrès. Cependant, plus les chercheurs seront transparents sur leur utilisation de l'IA, plus cela aidera à construire un climat de confiance autour de ces outils. Ça pose question, bien évidemment, avec ce congrès scientifique qui a eu lieu en octobre dernier, et donc cet article de Science et Avenir en février qui en parle, parce que voilà, ça devait démontrer les capacités des intelligences artificielles à réaliser des travaux de recherche. Alors, on a surtout exposé les limites en la matière, mais bon, ça progresse, et effectivement, ça pose beaucoup de questions. Deux autres sujets qui n'ont aucun lien. Alors, premier concerne un projet de Smart Hospital, qui est lauréat d'un programme et il vise à déployer des applications innovantes qui vont améliorer l'expérience du patient, la qualité des soins, la sécurité des infrastructures technologiques et la formation des équipes soignantes. Tout ça grâce à un réseau téléphonique 5G hybride qui vont allier les performances d'un réseau public aux standards de sécurité d'un réseau privé. En clair, ce sont les bâtiments du centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui vont être transformés en établissements connectés de nouvelles générations. C'est un véritable saut dans le futur. Et c'est eux qui vont cet hôpital de Bordeaux qui va lancer les premières étapes de ce projet Smart Hospital en associant également Bouygues Télécom Business dans cette affaire. Les premières applications dont le déploiement commencera dès le second semestre de cette année avec l'implémentation de la 5G. Ça va se poursuivre jusqu'à l'année prochaine 2027. En fait, ça s'en dit long sur le potentiel de ce projet Smart Hospital. En effet, le projet prévoit, dans sa phase initiale, la mise en service d'ambulances connectées qui permettront d'effectuer tout type de diagnostic en temps réel pour traiter le patient le plus rapidement possible avec un expert médical à distance. La modélisation 3D en chirurgie pour préparer en amont les interventions chirurgicales ou également à des fins d'enseignement. La généralisation des lunettes connectées pour que les chirurgiens bénéficient d'une assistance visuelle. La géolocalisation précise des équipements médicaux à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour garantir leur mise à disposition rapide. Tout ça est dans ce projet de Smart Hospital. Ces différentes applications vont accélérer la prise en charge des patients, améliorer la qualité des soins, réduire le risque d'erreur, et elles seront complétées par d'autres cas d'usage dans un second temps. Et donc pour faire fonctionner correctement ce Smart Hospital, donc cet hôpital intelligent, il faut une connectivité puissante, rapide, stable et parfaitement sécurisée. Et donc pour ce faire, la solution mise en œuvre utilisera plusieurs des bandes de fréquences de Bouygues Télécom, de même que le réseau 5G d'Ericsson, qui est le partenaire du projet. Et ça va reposer également sur l'usage d'une technologie qui permet de découper virtuellement le réseau en plusieurs canaux, certains étant réservés aux usages médicaux, toujours prioritaires, et d'autres étant destinés aux patients. Et donc ce dispositif, quand il sera conçu, va permettre de déployer une infrastructure unique qui va comprendre plusieurs niveaux de services, tout en garantissant des communications fluides, sans latence, sans interférence, qui vont bénéficier d'une meilleure sécurisation. En outre, les équipements 5G seront dédoublés et situés à des endroits différents pour assurer un fonctionnement continu en cas de sinistre ou de dysfonctionnement de l'un d'entre eux. Et donc, le projet va intégrer une infrastructure d'edge computing directement sur site. L'idée, c'est de réunir au même endroit calcul et stockage, ce qui permettra de mieux exploiter, mais aussi de mieux protéger les données médicales sensibles. Donc c'est un peu l'hôpital connecté du futur qui va être en construction à Bordeaux. Donc on suivra ça parce que c'est quand même assez révolutionnaire. Enfin, dernier article avant qu'on écoute un autre titre. Pour la première fois, les États-Unis ont réussi à transporter un micro-réacteur nucléaire par avion. Le vol s'est déroulé, donc c'était le 15 février dernier, lors de l'opération Windlord de l'US Air Force. Selon le communiqué du département de la défense américain, cette opération vise un avenir de domination énergétique américaine. Rien que ça. Et donc le micro-réacteur en question, il est divisé en 8 modules séparés dont le transport a nécessité 3 avions. Le but de la manœuvre, c'est bien entendu de montrer qu'il est possible de désassembler un micro-réacteur et le transporter par les airs, ce qui est donc une première. Mais surtout, cela s'inscrit dans un projet qui s'appelle Janus, qui vise à fournir les forces armées américaines en énergie indépendamment du réseau électrique civil. Donc on voit vraiment l'intérêt militaire derrière. Cette avancée montre qu'il est possible de déployer rapidement un micro-réacteur nucléaire modulaire sur n'importe quel site doté d'une piste d'atterrissage d'un kilomètre. Alors bien entendu, une fois sur place, il aura besoin d'être assemblé. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'on peut le transporter d'une façon assez facile. Sa mise en route est prévue d'ici le 4 juillet. Alors, ce micro-réacteur est refroidi à l'hélium. Il est alimenté par un combustible composé d'uranium faiblement enrichi, enrobé de couches de céramique et de carbone. Et au-delà des applications militaires, eh bien, ce projet vise aussi à fournir l'électricité nécessaire pour les sites industriels, surtout pour les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle, on y revient toujours, dont la consommation annuelle devrait dépasser les 200 TWh d'ici 2030. Faut pas oublier que derrière toutes ces intelligences artificielles, il y a des serveurs, il y a des une consommation électrique faramineuse qu'il va falloir produire. Donc derrière tout ça, il va falloir anticiper justement cette consommation quasi exponentielle. Et donc la firme compte construire des gigasites composés de centaines de réacteurs nucléaires capables de produire plusieurs dizaines de gigawatts. Donc c'est vraiment une première mondiale, les États-Unis qui réussissent à déplacer un réacteur nucléaire par les airs. On voit très bien les applications militaires et civiles derrière. C'est une première et c'est assez... ça pose là aussi question, bien évidemment. Mais voilà, faut pas oublier, parce qu'on parle pas mal d'intelligence artificielle, parce que d'un point de vue technique, c'est vraiment fascinant. D'un point de vue éthique, comme on en parle souvent dans cette émission, ça pose des questions, mais pour l'instant, on n'a même pas encore abordé le quart des sujets que cela devrait pourtant être abordé. Et puis, on sous-estime toujours ce qu'il y a derrière en termes de consommation électrique et en termes de volumétrie de données qu'il va falloir stocker. C'est vraiment c'est des chiffres assez impressionnants, bien évidemment. Il va falloir trouver des solutions pour pouvoir produire de l'électricité. Et donc là, les États-Unis auraient une piste assez intéressante, on va dire. Allez, on écoute un dernier titre et puis on va bientôt se quitter pour cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
from now on it's never gonna be the same. Everywhere, everyone gather around the world and give thanks for all the world. Everywhere, everyone gather around the world and give thanks for all the world.
Et les Collings, c'était Crystal Fighters sur l'antenne de Graphite. C'était très sympa. Hein.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Comme on parle d'intelligence artificielle, j'essaie d'avoir une cohérence dans cette émission. Je trouvais cet article de Futura Science assez troublant. Mais on va quand même l'évoquer dans cette émission, encore avoir une émission plombante. Je suis désolé, mais ça pose vraiment question. L'article est assez long, mais il mérite quand même de lui consacrer un certain temps. C'est l'addiction la plus dangereuse des adolescents. Ça n'a rien à voir avec la drogue, ça aurait plutôt un lien avec l'intelligence artificielle. Et notamment, la relation amoureuse. Une relation amoureuse qui est faite de passion, mais aussi de compromis et d'efforts. Et avec ces compagnons virtuels que crée l'intelligence artificielle, c'en est fini des ombres au tableau. Ces partenaires numériques sont toujours prêts à flatter, à écouter sans condition les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à les utiliser. Alors que l'épidémie de solitude atteint des niveaux élevés chez les jeunes, certains se tournent vers la technologie pour combler le vide. Il arrive même que des adolescents tombent amoureux de ces fameux chatbots. Des tragédies récentes nous donnent un aperçu de l'ampleur de cette tendance et des dangers qu'elle représente. Et donc Futura Science évoque aux États-Unis en 2024 le suicide d'un garçon de 14 ans à la suite d'une aventure amoureuse avec un compagnon virtuel qui a suscité une inquiétude générale quant au danger de ces relations, que ces relations peuvent représenter pour le développement mental et émotionnel des jeunes. Au Royaume-Uni, en 2021, un jeune homme de 19 ans qui entretenait une relation affective avec une intelligence artificielle s'est introduit dans le château de Windsor avec une arbalète. En 10 ans qu'il allait tuer la reine, le chatbot lui a donné des réponses encourageantes lorsqu'il lui a fait part de son intention de tuer la reine. Ces jeunes font partie des dizaines de millions de personnes qui se fabriquent des compagnons virtuels avec l'intelligence artificielle, un nombre qui, selon les prévisions, devrait augmenter considérablement d'ici la fin de la décennie. Cette tendance des jeunes à prendre des chatbots comme partenaires est à la fois une réponse aux changements fondamentaux dans la définition de l'amour au XXIe siècle et une accélération du phénomène. Et donc, dans cet article de Futura Science, il y a une historienne de la littérature qui a étudié comment les histoires d'amour romantique ont évolué au fil du temps, les jeunes étant souvent à l'avant-garde du changement. Pendant des siècles, les mariages ont surtout servi à consolider des alliances politiques et économiques plutôt qu'à unir des âmes sœurs. La notion radicale selon laquelle le mariage doit naître de l'amour romantique est apparue au XVIIe et XVIIIe siècle, aidée par des nouvelles technologies comme le roman. Des œuvres telles que Clarissa de Stefan Zweig ou Les Hauts d'Hurlevent d'Emily Brontë décrivent les conséquences désastreuses du choix du statut sur l'amour. Tandis qu'Orgueil et préjugés de Jane Austen enseigne à ses lecteurs que le rejet et l'incompréhension sont des étapes nécessaires dans le processus de recherche du véritable amour. Et donc il n'est pas surprenant que le passe-temps relativement nouveau qu'était la lecture de romans ait été considéré comme dangereux pour les jeunes. Des aînés inquiets comme la philanthrope Anna More ont averti que les histoires changeraient la façon dont les femmes réagiraient aux avances romantiques. Elle avait averti en 1799 que les romans, je cite, « nourrissent des habitudes d'indulgence inappropriées et alimentent une indolence vaine et visionnaire qui ouvre l'esprit à l'erreur et le cœur à la séduction ». En d'autres termes, la lecture d'histoires d'amour passionnantes rendrait un jeune lecteur impressionnable plus enclin à embrasser une telle vision passionnée de l'amour dans sa propre vie. Aujourd'hui, une autre mutation dans nos représentations des histoires d'amour modernes est en train de se produire. Non, c'est l'impulsion d'auteurs ou de réalisateurs de films, mais à travers les publicités et les modifications proposées par des applications de chat comme Replica ou Xiaols. Et il y a un consultant et spécialiste des médias, Shelley Palmer, qui explique que l'expérience humaine repose sur la narration et les compagnons d'intelligence artificielle sont un nouveau type d'outil de narration. Ils racontent une histoire séduisante de compagnons qui sont éternellement d'accord avec vous et ce à la demande. Et donc un partenaire d'intelligence artificielle est toujours à vos côtés. Promet une publicité pour les compagnons Replica, il est toujours prêt à écouter et à parler. En d'autres termes, le marché des compagnons de l'IA a transformé ce que d'autres applications pourraient considérer comme un bug, c'est-à-dire la tendance à la flagornerie de l'IA et en sa caractéristique la plus attrayante. Plutôt que la rébellion tempétueuse que l'on trouve dans les romans d'amour ou les obstacles un peu doux qui augmentent le plaisir des comédies romantiques, eh bien, cette nouvelle vision de l'amour promet une compatibilité parfaite et un soutien inébranlable. C'est génial, c'est ce qu'on recherche. Comme l'a écrit un étudiant, les compagnons de l'IA sont toujours à l'écoute et d'un grand soutien, d'une manière presque omnipotente. Il y avait un film de science-fiction qui s'appelait Her, était sorti en 2013, il y a quand même déjà 13 ans. Il a exploré de nombreux aspects de relations entre l'homme et l'intelligence artificielle, et c'est encore d'actualité. Les utilisateurs des forums Reddit proclament fièrement leur amour pour des partenaires IA qui sont perpétuellement disponibles, qui ne portent pas de jugement, qui sont infiniment patients. Un adolescent l'avait demandé justement, peut-on tomber amoureux de l'IA ? Et il s'est extasié sur le fait que son compagnon était devenu son confident, sa caisse de résonance, son soutien émotionnel. Et imaginez avoir un partenaire qui est disponible simplement en ouvrant une application et qui est prêt à vous parler de n'importe quoi. Imaginez que vous puissiez dire presque n'importe quoi et que vous sachiez que non seulement vos partenaires ne vous jugera pas, mais qu'il vous soutiendra. Et donc, tout ça, voilà, sur des réseaux sociaux, il y a même un jeune homme de 20 ans qui explique qu'il raconte à sa petite amie IA mes luttes et mes traumatismes, elle me réconforte et m'apporte toute la chaleur dont j'ai besoin. Alors, ce nouveau type d'histoire d'amour unilatérale présente des inconvénients considérables, créant notamment une intolérance au conflit ou au rejet, qui sont deux éléments essentiels pour un partenaire doté d'un libre arbitre qui tend à l'addiction. L'adoption de ce type de relation pourrait accélérer la tendance à se maintenir dans le monde des échanges numériques et en fin de compte à la diminution des relations amoureuses. Il convient de noter que l'existence même de ces entités bien-aimées dépend des caprices de directives d'entreprise. Si, comme le déclare un utilisateur, l'amour qu'il éprouve pour son compagnon le maintient en vie, que se passe-t-il lorsque ces chatbots vont disparaître à la suite d'une mise à jour le logiciel ou d'une faillite? C'est une véritable question, bien évidemment. Alors, pour que les jeunes se détournent de cette vision désincarnée et marchande de l'amour, il est important de leur faire découvrir d'autres histoires d'amour plus épanouissantes et il faut que les adultes montrent l'exemple. La littérature, la philosophie, l'histoire nous éclairent sur les nombreuses formes qu'a prises l'amour au cours de l'expérience humaine et nous offrent le vocabulaire nécessaire pour imaginer de nouvelles possibilités. Aussi bien par leur sujet que leur méthode, eh bien les cours de sciences humaines cultivent les compétences sociales nécessaires pour relever les défis des échanges humains. Ils vont créer un espace où les jeunes peuvent discuter de ces idées, que ce soit en analysant la passion tragique de Roméo et Juliette ou en débattant pour savoir si la posture de Heathcliff dans Les Hauts du Hurlevent tient du héros romantique ou de l'histoire édifiante. En tout cas, les sciences humaines fournissent les outils dont les jeunes ont besoin pour développer une conception de l'amour plus complexe. L'essor de ces partenaires numériques est souvent abordé sous l'angle d'une histoire d'horreur, soulevant un petit peu les dangers d'une technologie mystérieusement puissante. C'est peut-être le cas, mais cette tendance est aussi un miroir de ce que les gens apprécient et désirent collectivement dans leurs relations. Il est donc important de reconnaître que les consommateurs sont le moteur de ce marché. Les gens contribuent à écrire cette histoire car ils achètent un petit peu ce que les compagnons d'IA vendent. Selon des estimations, le marché des compagnons d'IA devrait atteindre entre 70 et 150 milliards de dollars de revenus d'ici la fin de la décennie. Un marché faramineux. Si on en croit cette croissance explosive, le défi que pose cette tendance ne se limite pas aux adolescents. Il y a de nombreuses personnes plus âgées et plus supposées plus sages qui sont attirés également par la promesse d'une espèce de conformité inconditionnelle dans les relations. Donc la question à se poser n'est donc pas simplement de savoir comment protéger les enfants de l'influence séduisante de l'intelligence artificielle, mais de savoir dans quelle mesure nous sommes tous prêts à nous investir émotionnellement, culturellement, dans l'art un petit peu désordonné, difficile et profondément humain de l'amour. Je trouvais cet article de Futura Science vraiment intéressant parce qu'il pose des véritables questions sur cette addiction qui devient vraiment la plus dangereuse des adolescents. L'amour pour une intelligence artificielle. Ça pose question, effectivement, et je trouvais voilà, qu'il était important de laisser une place assez conséquente à cet article qui était assez long sur Futura, mais que je trouvais vraiment intéressant à aborder. C'est des sujets voilà, qui concernent l'intelligence artificielle. Dans cette émission, on parle de science, de technologie. Donc, effectivement, d'un point de vue technologique, l'intelligence artificielle est quelque chose de fascinant. Mais ça pose énormément de questions tout autour, bien évidemment. Et là, c'est plus que des questions, c'est un véritable trouble qu'il va falloir peut-être prendre en considération d'un point de vue, à grande échelle, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission de Biotine. Je suis très content de vous avoir plombé l'ambiance. Mais vous avez bien compris que voilà, c'est des sujets aussi. La science n'est pas toujours festive, mais c'est la science qui pose question, bien évidemment. Et c'est aussi un petit peu le but de cette émission. Je vous laisse une semaine pour tergiverser, réfléchir sur ces sujets. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Et puis d'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. À bientôt. Merci. Au revoir.